En France, 650 000 personnes sont touchées par l'autisme. Également, 80 % des enfants français ne sont pas scolarisés. Et finalement, 77,4 % des autistes n'ont pas eu accès à un diagnostic précoce. On apprend tout ça dans le deuxième livre, le plus récent livre d'Hugo Auriot, Carnet d'un imposteur. Il est avec moi en studio. Merci d'être là, Hugo.
Bonjour.
Dans ce livre-là, vous parlez bien sûr de votre vie avec l'autisme. Vous en parlez peut-être davantage dans votre premier livre, L'Empereur, c'est moi, oui. Est-ce que c'est une façon... Et bien sûr, d'entrée de jeu, je pense que c'est important de dire que d'un point de vue québécois, ça a quelque chose d'assez préoccupant, ces statistiques-là, d'inquiétant. Est-ce que cette prise de parole dans le livre est une façon de dénoncer ou du moins de nommer la situation?
Exactement. Je suis convaincu que d'ici une centaine d'années ou 200 ans, ce qui se passe par rapport à la population autiste en France, on la qualifiera cela de génocide. En effet, les autistes en France, ce n'est pas trop de dire qu'ils sont déportés. On les emmène en Belgique dans ce qu'on appelle des usines à français aux frontières de notre pays et on s'évertue à surinstitutionnaliser cette question-là, c'est-à-dire que toute différence aujourd'hui est enfermée derrière des murs et on accompagne pas la différence. On préfère parler de prise en charge du handicap, alors que l'autisme est une part de la neurodiversité humaine, c'est une manière différente de fonctionner et qui peut tout à fait être en adéquation avec la société telle qu'elle est. Mais on refuse cette question-là en France. Parler de cela en France, parler de neurodiversité dans l'autisme en France est encore aujourd'hui politiquement incorrect, mais je le fais.
Oui. Vous pourriez déménager ici, Hugo Auriot. Le point de vue serait différent.
Personnellement, pour moi, tout va bien, si vous voulez. C'est plutôt pour mes tas de camarades autistes pour qui il y a beaucoup de problèmes. Pour moi, en France, je suis arrivé à me débrouiller, mais je suis évidemment une exception. Mais ceci dit, mon cas est loin d'être exceptionnel. C'est-à-dire que je connais quelques autistes qui ont la chance d'avoir une vie, si vous voulez, plutôt autonome, même en France, mais ce sont des autistes secrets. Ce sont des autistes qui n'ont jamais été diagnostiqués. Beaucoup se font diagnostiquer vers 50 ans, 40 ans. En France, il faut en moyenne 3 ans d'attente pour un diagnostic. Et très peu de psychiatres sont compétents en France. Imaginez-vous que les formations psychiatriques et psychologiques en France, vous étudiez l'autisme peut-être 2 heures dans vos formations. Et si vous y êtes, on va peut-être vous vanter les bienfaits des mérites de torture qu'on est encore les seuls à pratiquer en France, comme le packing, par exemple, qui consiste à envelopper un enfant autiste dans des linges humides et froids à 5 degrés, où on va encore dire que ça fait du bien. En France, c'est 3 milliards d'euros par an qui sont consacrés à l'enfermement de la population autistique, et c'est de l'argent public.
Hugo, vous parlez de votre vie avec l'autisme, et surtout aussi de votre nouveau rôle de père, et ça, on y reviendra. Comment ça se manifestait dans votre enfance, l'autisme? On apprend qu'à 6 ans, vous ne parliez pas encore. Est-ce qu'il y avait d'autres signaux qui pouvaient démontrer ce trouble du spectre
de l'autisme?
En effet,
pour la communication, la communication m'effrayait au plus haut point. Je n'étais pas prêt à communiquer. Je me suis ouvert au langage extrêmement tard, à l'âge de 6 ans, et je suis encore resté très taciturne jusqu'à l'âge de 12 ans. J'évitais aussi le regard des personnes. Les regards, c'est une telle avalanche d'informations sur l'individu. C'est la fenêtre de l'âme. Et donc, cette avalanche d'informations me troublait énormément. Donc, j'évitais le regard de chacun et j'avais beaucoup de gestes répétitifs dans lesquels je me réfugiais. J'étais capable de tourner les roues des petites voitures pendant des journées entières. Et il a fallu, à un moment donné... quand je me suis senti plutôt prêt à rentrer dans la communication dans une société basée sur le verbe, l'image, enfin toutes ces choses-là, tous ces codes qui ne sont pas évidents pour la population autistique, pour la spécificité autistique, quand j'ai commencé à le faire, je me suis muré dans une prison qui était le conformisme, le mur de la contrainte de normalité. Et ça, c'est ce que je raconte dans Carnet d'un imposteur, où là, à force d'essayer de me faire passer pour quelqu'un, entre guillemets, de ce qu'on qualifie de ce qui n'existe pas, mais de normal, au moment où je décide enfin de raconter mon histoire, de replonger dans ces parts d'ombre de moi-même, eh bien, je suis devenu un comédien tellement adroit pour me dissimuler qu'on refuse de me croire.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous ouvrir? On entend parler dans le Carnet d'un imposteur de votre mère qui semble vous avoir accompagné dans cette différence-là.
J'ai eu beaucoup de chance avec ma mère, parce que c'est vrai que je n'ai bénéficié d'aucune méthode particulière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres de chapelle dans l'autisme où chacun essaye de trouver le ou la méthode miracle. Ça n'existe pas. Il faut rajouter du bon sens. Ma mère a eu le bon sens d'essayer de comprendre mon monde intérieur et quelque part d'être d'accord avec mon refus d'entrer dans une forme d'absurdité. Mais en même temps, elle a su me faire valoir l'importance, le fait qu'il était vital pour moi de quelque part quand même jouer le jeu, car sinon c'était l'enfermement en hôpital psychiatrique dès l'âge de 2 ans qui m'était destiné.
Ouais.
Et elle s'est battue pour que je sois accepté à l'école ordinaire, ce qui a été difficile parce qu'à l'époque, et encore aujourd'hui c'est un peu encore balbutiant, il n'était pas du tout question de parler de réformer le système scolaire pour permettre d'ouvrir notre scolarité, pour créer une société inclusive, un système scolaire qui accepte toutes les différences et surtout avec des personnes formées pour accueillir ces différences afin de bâtir une société non plus basée sur la contrainte de normalité, mais sur la différence de chacun.
Vous êtes papa d'un petit garçon de presque 4 ans, Hugo.
Oui.
Et dans ce livre, vous parlez de ce nouveau rôle de père qui est confrontant. Est-ce qu'il l'est davantage parce que vous vivez avec l'autisme?
Alors, je ne pourrais pas vraiment dire. Disons que, bon, en effet, tout le monde croit que je fais des livres sur l'autisme. En fait, je fais des livres sur la condition humaine en général. C'est-à-dire que le message de ce livre, quelque part, c'est qu'un autiste est un homme comme un autre, quelque part. Et la paternité est une révolution intérieure. C'est la plus grande révolution intérieure que j'ai connue. Quand ça arrive, cela bouleverse tous vos schémas établis, tous vos plans, toutes vos certitudes. Et tout cela se retrouve balayé du jour au lendemain. Mais en même temps, tant mieux, parce que les certitudes sont faites pour être balayées.
Oui. D'entrer en contact avec votre fils, de trouver les gestes réconfortants, les gestes apaisants.
C'est
les
un
bons
monde
mots.
Étranger pour moi, ouais. Parce que mon fils, justement, lui, est très heureux d'être un enfant. J'ai passé mon enfance à vouloir sortir de mon enfance, à vouloir la fouler aux pieds. Je voulais devenir un adulte, un grand tout de suite. Mon fils, il est heureux d'être un enfant. Il est taquin, il est joueur. Et donc, évidemment, je me dis comment être un bon père alors que moi, j'ai détesté être un enfant. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le laisse me guider dans ce monde de l'enfance que j'ai récusé et que j'ai fui. Et finalement, quelque part, je vis une enfance par procuration avec lui et il m'emmène dans ce monde fait de jeux, de naïveté, de malice qui m'était interdit
en
raison
de
ma spécificité. C'est un très beau cadeau, il me fait des cadeaux tous les jours comme ça.
Ouais. J'ai envie de profiter de votre présence, Hugo Orio, pour nous mettre, se permettre d'entrer dans la tête d'une personne qui vit avec l'autisme. Comment mieux comprendre? Évidemment, c'est un spectre, l'autisme. Ça se vit différemment chez chaque personne, mais comment on peut arriver à mieux entrer en contact, à mieux comprendre et à mieux accompagner cette différence?
Déjà, je pense qu'il faut, avant de vouloir remettre en question l'autisme, ce qu'on a tendance à faire, c'est plutôt remettre en question les standards de notre société. C'est-à-dire que l'autisme appelle à une remise en question du fonctionnement sociétal. Et le fonctionnement sociétal, bien souvent, est bâti sur ce qu'on appelle une forme de contrainte de normalité établie par une majorité silencieuse. Mais il faut penser différemment. Il faut... l'autisme... Il y a beaucoup de personnes autistes qui ont révolutionné le monde. Les grandes inventions ont été faites par des personnes qui sont fortement soupçonnées d'autisme. Aujourd'hui, j'entends des discours comme quoi on voudrait corriger l'autisme, comme quoi on voudrait corriger la diversité humaine. Et ça, c'est extrêmement grave. Car là, on peut rentrer dans une forme d'eugénisme de nivellement par le bas et donc ça c'est l'avènement de la médiocrité et ça c'est le danger de notre civilisation et nous devons faire très attention. L'autisme est peut-être aussi peut être pris comme une sorte de lanceur d'alerte par rapport à cela.
Et à un moment donné aussi il faut savoir reconnaître et accueillir parce que si on regarde les statistiques et c'est la même chose au Québec, de plus en plus de diagnostics surviennent, il y a de plus en plus de naissances où l'enfant, on découvre que l'enfant vit avec l'autisme. Donc, de trouver, oui, les paramètres pour mieux vivre avec cette personne-là, se diriger vers de la recherche, vers des ressources, vers la scolarité aussi, également. Et je pense qu'un livre comme ça peut nous amener, je le souhaite aussi. Il est accueilli en terminant de quelle façon de votre côté de pays chez vous, Hugo Orio?
L'accueil est bon, on a un très très bon accueil critique, le public est au rendez-vous et je suis actuellement déjà en train de préparer mon troisième livre.
On suivra ça de près. Hugo Orio, auteur de ce livre « Carnet d'un imposteur » que vous pouvez trouver du côté des éditions de l'Homme. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui.